les pharisiens, ce qui va durcir le débat. Une nouvelle fois, nous voici face à la question du sabbat. Éternelle question entre Jésus et les pharisiens et les légistes. Une nouvelle fois, Jésus est face à un malade. Comment va-t-il réagir, Jésus ? Et le malade ? Et les pharisiens ? Une nouvelle fois, une parabole qui nous pose plusieurs questions. Est-ce que je m'assois à table quand je suis invité à droite de celui qui m'a invité ? Et qui j'invite quand j'organise un dîner ? Est-ce que j'attends d'être invité en retour ? Et puis aussi bien que moi je l'ai fait, hein, quand même. Voilà, en quelques grandes lignes, le débat ouvert par l'évangile d'aujourd'hui. Commençons par Jésus chez le chef pharisien. Invité pour le repas et mangé donc, Jésus se met à table et il le sait, il l'a compris, il est sous le regard des pharisiens qui le surveillent. Surveiller, ça veut dire ne rien laisser passer. Drôle d'ambiance d'être invité dans des conditions pareilles, n'est-ce pas ? Jésus a bien compris que l'invitation n'était pas pour le plaisir de le voir, mais l'invitation était là pour le bousculer et lui casser les pieds. Reste à savoir qui va bousculer l'autre. Vous le savez, Jésus est très doué pour inverser les situations. Assis à table, allongé à table, Jésus est en face d'un homme, invité lui aussi, et malade. Hydropique, c'est avoir plein d'œdèmes, plein d'eau sur tout le corps. Donc autant vous dire qu'il est quand même déformé. Jésus interprète en silence ce vis-à-vis comme un face-à-face, malade Jésus, organisé par les pharisiens pour l'embêter. Les pharisiens le connaissent, Jésus. Donc là, ils ont créé une situation pour casser les pieds de Jésus. Et Luc est intéressant, car il écrit « Jésus répondant ». Vous avez entendu quelque chose, vous ? Le malade ne dit pas un mot. Les pharisiens n'ont pas encore dit un mot. Jésus répond à la situation créée par les pharisiens. Et il répond ainsi aux pharisiens, qui sont très muets eux aussi, mais qui attendent des paroles de Jésus dans la situation qu'ils ont créée eux-mêmes, soignée ou pas, lors du sabbat. C'est pourquoi Jésus leur parle directement à eux et leur pose la question qu'ils attendent. Est-il autorisé de soigner lors du sabbat ? Jésus les coince. Les pharisiens veulent une réponse. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Que fait Jésus ? Pose une question. Et ce qui, attitude habituelle des pharisiens, ils se taisent à la question de Jésus. Et ce qui suit est formidable. Car dans ce lourd silence, imaginez, Jésus, le malade en face de lui, et tout autour d'eux, à table, des pharisiens et des légistes, dont un chef. Donc les pharisiens font attention à ce qu'ils disent. Dans ce lourd silence, Jésus va agir selon son esprit et sa manière d'être. Remarquons bien les mots utilisés par Luc, car il y a ici une grande leçon à entendre et à se rappeler. C'est pour ça qu'il était bon que ce texte soit retraduit, parce qu'en français, les nuances ne sont pas données. Voilà ce qui est écrit par Luc. Alors, Jésus le surprit, le guérit et le laissa aller au loin. Il nous faut avancer pas à pas afin de saisir tout le sens de ce texte. Le premier verbe utilisé par Luc pour l'action de Jésus est « épi lambano », qui signifie « lambano » prendre, avec le préfixe « sur ». Donc Jésus surprend le malade, ce qui nous invite à entendre que le malade va être surpris par ce que Jésus va faire, ce que Jésus va lui donner. Sous-entendu, le malade est utilisé par les pharisiens pour leur problème avec Jésus. Mais les pharisiens n'ont pas prévenu le malade qu'il allait être guéri. Donc le malade n'a pas demandé à Jésus d'être guéri. Vous comprenez le système? Il y a une part de surprise ici par le malade. Jésus ne le touche pas, Jésus ne lui parle pas, mais sa présence, tout son regard et son esprit vont prendre le malade de haut, alors que sans doute il ne s'attend pas à ce que Jésus s'occupe de lui et le guérisse. Car le deuxième verbe utilisé par Luc nous dit que Jésus le guérit avec le verbe yaomai. Là, Luc nous invite à faire la différence entre soigner et guérir. Jésus à table demande aux pharisiens s'il est possible lors du sabbat de soigner. Et que va faire Jésus avec un malade? Il le soigne ou il le guérit? Vous tous qui êtes là, vous savez la différence. On peut être soigné pendant très longtemps et ne jamais guérir. Donc soigner un malade, c'est prendre soin tout en sachant que la guérison n'est pas toujours assurée. Et ici, Luc écrit que Jésus guérit. Et le troisième verbe utilisé nous dit que Jésus le laisse aller au loin, le libère. C'est-à-dire, le libère des contraintes de sa maladie. Et vous le savez, une guérison ne nous permet pas de retourner en arrière. Elle nous ouvre un autre chemin, mais tout ce que nous avons vécu, nous l'avons dans le dos, sur les épaules. Ça a pesé. Nous sommes différents quand nous sommes guéris. La maladie n'a plus de prise sur l'homme. Il est guéri, libéré, et Jésus lui offre une vie nouvelle. Va, va, je te libère, va loin. Et les pharisiens restent silencieux. Ont-ils compris l'attitude de Jésus? Ont-ils compris que l'acte de Jésus était au-dessus des lois qu'ils érigent? Ont-ils compris que Jésus est tout amour? Personne ne lui a demandé à Jésus de faire ce qu'il a fait. Ni le malade, ni les pharisiens, qui ne voulait qu'une controverse, une bagarre. Et nous, comprenons-nous l'attitude de Jésus, révélateur de cet amour puissant de l'Éternel, qui est bien au-dessus de nos lois humaines? Si nous pouvons parler de la loi de l'Éternel que Jésus applique, nous avons à reconnaître que prendre soin de l'autre en difficulté est toujours prioritaire si nous nous disons disciples de Jésus. Nous voici aussi devant six versets dans la parabole qui nous rappellent, non pas dans la parabole, pardon, je vais trop vite. Nous voici devant les six versets qui nous rappellent qu'être humain et qu'être disciple de Jésus, c'est chaque jour prendre soin de celui ou celle qui est en souffrance, quelle que soit la loi des êtres humains. Rappelez-vous qu'un jeune monsieur dans le sud de la France a été mis en prison pour avoir donné à manger à des réfugiés qui passaient les Alpes du Sud. Ce que dit Jésus est d'une immense actualité pour chacun d'entre nous. Reconnaissons aussi que souvent, nous nous cachons derrière notre petit doigt pour ne rien voir, ne rien faire et nier notre engagement avec Jésus. Nous détournons les yeux. Continuons avec la seconde partie de ce récit, avec la parabole que Jésus donne aux pharisiens et aux légistes qui le surveillent toujours. Cette fois, nous sommes à table, mais nous sommes invités à des noces. Chacun le sait, les invités ne peuvent pas tous s'asseoir à la table des mariés. Quand on va à un mariage, bon, pourtant, nous l'avons vu, ou peut-être nous l'avons fait. Certains changent les petits mots avec les noms pour se mettre à la table où ils veulent. Ou au contraire, nous savons que cela ne se fait pas de prendre la meilleure place grâce à l'éducation que nous avons reçue. Chacun fait comme il peut. Dans le texte de Luc, Jésus nous invite à ne pas prendre la première place. Mais peut-être, vous ne le savez pas, mais peut-être vous le savez, en Palestine, la première place à l'époque de Jésus, c'est la place du marié. Donc, prendre la première place, c'est prendre la place du marié. Là, il y a erreur fondamentale. Mais pour Jésus, la leçon est très claire. La place d'honneur est au dernier rang. Aïe, aïe, aïe. Difficile à choisir, difficile à vivre pour chacun de nous. Mais pour Jésus, c'est là où nous devons attendre que le maître de la noce qui nous a invités nous invite à nous rapprocher des mariés. Que l'autre décide et pas nous. Ce qui signifie clairement que nous devons absolument éviter de nous comparer les uns et les autres. Car si nous voulons être à la première place, c'est parce que nous sommes bien mieux que les autres, non ? Oui. Sauf que nous le jugeons et que nous nous comparons aux autres. Or, que savons-nous des autres ? Si peu de choses. Nous ne pouvons pas réduire l'autre à ce que nous savons. C'est une grave erreur. Et nous ne pouvons pas décider que nous sommes les meilleurs. Vivre main dans la main avec Jésus, n'est-ce pas une manière de vivre d'abord sous son regard à lui et d'éviter les jugements des autres pour ne pas se croire tout en bas, ne pas se croire tout en haut, mais rester à notre place et ne vivre qu'avec le regard de Jésus. Car Jésus met de nouveau en lumière l'orgueil qui nous habite et qui trop souvent nous conduit. Rappelez-vous le récit d'Adam et Ève qui volent la part de l'Éternel, la fameuse pomme qui n'est pas pomme dans la Bible, mais qui est un fruit, voilà, illustré par ce fruit de l'arbre qui appartient à l'Éternel. Mais pourquoi font-ils ça, Adam et Ève ? Mais pour faire comprendre que nous n'avons besoin de personne, même pas de Dieu. Quel orgueil ! Quel orgueil ! Nous manquons toujours de quelque chose que l'autre peut nous offrir, que ce soit le pardon ou que ce soit le pain. Jésus dit le contraire de ce mythe aussi qui parle de nous. Il nous dit « Ouvre ton cœur et reconnais que tu as besoin de l'autre, que tu as besoin de l'amour de l'Éternel. » Jésus, silencieusement, nous invite à comprendre que nous ne sommes pas un, c'est-à-dire total à nous-mêmes. Nous avons des manques à reconnaître. Nous avons des dons à recevoir. Toute notre vie est don. Aucun d'entre nous n'est allé chercher sa vie. Vous l'avez tous, nous l'avons tous reçu de nos parents. Et ainsi de suite. Faites la liste en rentrant de tout ce que vous avez reçu depuis que vous êtes né, parce que, à part mes petits-enfants qui sont là, vous avez tous quelques années devant vous, ou derrière vous d'ailleurs. Et je regarde les plus jeunes qui sont là, mais bon, je me trompe. Voilà. Ainsi donc, une fois de plus, Jésus nous bouscule. Si vous lisez l'Évangile tous les jours, bravo. Mais ne lisez pas comme si vous le connaissiez par cœur. Laissez-vous bousculer, questionner, mettre par terre. Jésus nous bouscule à chaque fois. Ce n'est pas de la guimauve, l'enseignement de Jésus. C'est quelque chose de très furieux qui nous dit « Allez, bouge-toi, tu ne fais pas ce que je te demande. Vis autrement. » Dur, dur, pour vous comme pour moi. Je ne vous le cache pas. Jésus revisite notre foi. Tu as tout reçu de l'Éternel, alors donne sans limite à tous ceux et celles qui ont besoin de quelque chose. Et il revisite notre regard sur nous-mêmes et nous invite à nous accepter tels que nous sommes, à garder en nous le vif désir de recevoir, d'apprendre. Dur, ce chemin que Jésus nous invite une nouvelle fois à prendre. Mais si nous acceptons de vivre sur ce chemin, nous serons surpris par la guérison que Jésus nous offrira. Car Jésus ne nous soigne pas. Si nous nous tournons vers Jésus et que nous lui confions notre problème, il nous guérit si nous le suivons, main dans la main. Surpris ? Oui. Car Jésus, tout en nous remettant à notre place, nous guérit de ce qui nous encombre et ouvre devant nous une vie nouvelle si nous lui obéissons. Vous avez tout entendu là ? Si nous lui obéissons. C'est ça l'amour. L'amour ne peut pas nous forcer à faire quelque chose. L'amour commence par le respect de l'autre. Si nous voulons, si nous croyons en Jésus, il faut que nous lui obéissions. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, à chacun et chacune de nous d'écouter Jésus, d'accepter le travail qu'il veut faire en nous et pour nous, et de marcher avec lui, main dans la main, même si ça nous fatigue, si ça nous dérange et si ça nous bouscule sévèrement. Bon courage et amen.